Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission est consacrée à Bénédicte Bellepoix et à son quatrième roman, Morvan, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Une véritable découverte pour moi et un grand bonheur de lecture. Bénédicte Bellepoix nous relate l'histoire d'un prénommé Morvan, un jeune homme solitaire qui du jour au lendemain quitte sa maison située en Ardèche et son travail d'ouvrier agricole pour jouer son vatou et aller à la rencontre de son destin. Avec ses deux amis, Monica et Giovanni, rencontrés dans une pizzeria au pied du Mont Blanc, il prend la route et s'invente une nouvelle vie. Mais il est temps d'écouter Bénédicte Bellepoix, de tendre l'oreille et d'explorer avec elle d'autres chemins de traverse. Bénédicte Bellepoix, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier Morvan, je crois que c'est votre quatrième roman aux éditions Gallimard. Vous habitez, je crois, à Besançon, vous exercez la profession de sage-femme et vous avez passé votre enfance en Algérie. Suiza, qui est paru en 2019, est votre premier roman. Il a été récompensé par le prix Marcel Aimé, d'ailleurs, ça c'est formidable. Mmh. Le prix Marcel Aimé et le prix des lecteurs de la ville de Brive. Alors, ce roman, moi que j'ai beaucoup aimé, Morvan, au titre un peu trompeur, puisqu'on pense tout de suite à la région du Morvan, même si on va y arriver. Je dirais que c'est presque un roman paysagiste. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, Bénédicte Bellepoix, le roman de la seconde chance ? On pourrait dire que c'est un récit d'apprentissage aussi, ce roman Morvan.
Alors c'est surtout un roman de ma seconde vie, parce que effectivement c'est maintenant je suis en retraite de ma profession de sage-femme depuis peu, et maintenant je suis écrivain. J'ai encore du mal à dire ça, hein. Quand on me demande ce que je fais, je dis je suis sage-femme et ça me pose, j'ai ma carrière derrière moi. Autant dire je suis écrivain, j'ai encore du mal. Je pense qu'il me faudra peut-être 10 romans, je sais pas. Quand je pense écrivain, je pense Balzac, et j'ai du mal à ou Giono, et j'ai du mal à me confronter à ces grands auteurs. Donc voilà, c'est un roman de la seconde chance, bien sûr, comme tous mes romans quasiment. Mmh. Je crois beaucoup en ça. On a une vie qu'on nous a donnée au départ, et puis on peut peut-être des fois en sortir et choisir une autre voie avec les moyens qu'on a. Hein. C'est pas toujours des moyens fabuleux, mais on peut trouver quand même des solutions. C'est-à-dire qu'il y a une ligne toute tracée, très goudronnée, mais on peut prendre des petits sentiers de traverse.
Oui. Alors les sentiers de traverse, je parlais de romans paysagistes tout à l'heure. Vous citez le Grand Maulne. C'est une référence pour vous ?
Ah oui, c'est une référence pour moi. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu ce roman à l'adolescence. J'ai pas tout compris, je crois, à ce moment-là. J'ai pas compris ce que il y a des choses, des sous-entendus sur la paternité, etc. que j'avais pas saisi vraiment. Je l'ai relu dernièrement, juste avant justement d'écrire ce roman, et je me suis dit ah quand même c'est fabuleux. Il y a des descriptions de paysages, des descriptions aussi d'émotions, de fraternité que j'avais pas à l'adolescence vraiment compris, je crois.
Alors dans votre précédent roman, je pense, hein, ou dans l'un de vos précédents romans, vous avez écrit « On ne perçoit pas consciemment comme certaines personnes vous manquent avant de les connaître. On devine juste une fois qu'on les a rencontrées, qu'on ne pourra plus jamais vivre sans elles. » Et c'est vrai que là, ce sont de belles rencontres. Je dirais que il y a un trio, hein, d'amis qui vont se rencontrer. Ils sont très complémentaires. Et c'est ce roman Morvan est une réflexion sur la rencontre, sur le chemin, sur nos compagnons de voyage.
Et surtout sur les familles qu'on se bricole, quand on n'a pas eu, quand on a soi-même une famille déficiente, je crois aussi beaucoup en ça, j'ai vu beaucoup ça dans ma carrière, des gens qui ont des parents déficients, des frères et sœurs déficients aussi, et qui parfois rencontrent des gens qui ont des fragilités comme les leurs. Alors pas en miroir, hein, parce que quand on a les mêmes fragilités, c'est des fois ça marche pas. Mais quand on a des fragilités qui sont un petit peu différentes, on peut des fois s'appuyer sur l'autre. Je me souviens d'un couple qui m'avait dit, nous, on est très fragiles tous les deux, mais ensemble, on est forts. Et c'est vraiment ça qui m'anime. C'est-à-dire comment on peut trouver chez les autres la force qui nous manque. Et puis des fois, c'est fluctuant, comme dans une famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui a un peu le leadership, qui va sortir les autres de la mouise. Et puis, puis un moment, il chute, il s'effondre, et puis c'est un autre, etc. Donc voilà, c'est vraiment plutôt les figures maternelles et paternelles qu'on peut s'inventer quand on n'en a pas, vraiment.
Alors, présentez-nous un petit peu vos personnages, Bénédicte Bellepoix. Alors, il y a Pinson, dit Morvan, ouvrier agricole en Ardèche, élevé par un père alcoolique, qui décide de prendre son destin en main. Quel est-il, Morvan ? Morvan, c'est un nom d'emprunt, quand même.
Oui, c'est un nom d'emprunt. Moi, j'aime beaucoup les surnoms. Je trouve que ça dit beaucoup de choses des gens, plus que, des fois, leur prénom véritable. Vous rencontrez des gens comme ça, ils ont un surnom qui leur va à merveille, et on se dit oui. C'est un peu comme ça chez les Gitans. Vous avez le nom qu'on vous a donné, qui est votre nom patronymique, mais souvent, à la naissance, en fonction de la tête que vous avez, de qui vous êtes, on vous donne un surnom comme ça, et je trouve que c'est assez vrai. Je me rappelle d'un ami qui s'appelait Tcherklo, le corbeau, je crois que ça voulait dire, mais effectivement, il y a quelque chose de ça, de cet oiseau. Et j'aime beaucoup les prénoms, et lui, alors c'est un garçon qui est fragile aussi, mais avec quand même une certaine force. Il est surtout très jeune, il a 23 ans à peu près, et il s'est construit, je dis souvent, sans maternité, sans féminité. C'est-à-dire qu'il a été élevé par un père, sa mère est morte quand il était très jeune, et il n'y a pas de figure maternelle. Donc il a fait comme il a pu, quoi. Il est devenu le père de son père assez rapidement. Il le décrit d'ailleurs, il dit qu'à l'âge de 10 ans ça a commencé, et on voit ça souvent chez les parents qui sont un peu déficients. L'enfant prend un peu le rôle de l'adulte, et ça les projette tout de suite dans un monde un petit peu difficile pour eux. Ils n'ont pas le temps d'être enfants, en fait, mais ça leur donne une certaine profondeur, une école de la vie, hein. Et donc lui, c'est vraiment le personnage typique du gamin qui s'est un peu construit voilà, avec les taloches que lui a donné la vie, on va dire.
Alors, il a le sens de l'écoute, hein. On dirait qu'il est toujours disponible, Morvan, pour être à la parole de l'autre. Ou il y a aussi ça dans votre roman, Bénédicte Bellepoix, il y a ce fait de mettre en mots la parole des autres.
Ah ben ça, c'est dû aussi beaucoup à ma profession, hein, de sage-femme, et particulièrement de sage-femme en protection maternelle et infantile, puis aussi de conseillère conjugale et familiale, où j'ai appris à écouter les autres. Alors, moi, je suis une grande timide, en fait, donc ça n'a pas l'air comme ça, mais... Donc, je parle beaucoup, parce que quand je suis angoissée, j'ai blablabla. Et du coup, j'ai pu... tout au long de ma carrière, me taire un peu et écouter les autres. Et je crois que c'est ma seule qualité, c'est d'écouter et de, je dis avec une certaine violence, de voir la beauté sous la crasse. C'est-à-dire que quand on me raconte une histoire, alors des fois elle peut paraître un peu, je sais pas, crapoteuse comme ça, puis pourtant en dessous c'est magnifique. Et c'est, j'ai l'impression d'avoir cette acuité particulière pour voir le merveilleux. Et comme je suis une indécrottable optimiste, eh ben je peux raconter et mettre en mots ce merveilleux.
Ouais. Alors, il a deux autres, présentez-nous aussi ses deux autres amis, donc Monica et Giovanni. Je crois qu'il les rencontre dans une pizzeria de Sallanches, parce qu'il y a plusieurs lieux, hein, dans ce roman. Voilà, présentez-nous ces deux amis.
Alors, ces deux amis, il y a un vieil Italien revenu un peu de tout, qui est parti, comme beaucoup d'Italiens, faire fortune en France, et bien évidemment, il n'a jamais fait fortune. Et il est pizzaiolo dans une pizzeria à Sallanches. Il a un espèce de fantasme de son pays, parce que ça fait tellement de temps qu'il est parti, qu'il croit que... Il croit que, en fait, là-bas, il aurait jamais dû partir, hein, etc. Donc, il va les pousser à y aller. C'est un personnage un peu sans famille, sans véritablement d'espoir, mais qui va trouver dans ces deux jeunes, lui aussi une famille, c'est un peu ses enfants putatifs. Et puis il y a, alors, Monica, qui s'appelle en fait Monique, mais qui trouve que c'est un prénom de vieille. Donc Giovanni l'a rebaptisé Monica. C'est vrai que c'est tout de suite plus sexy, on va dire. J'ai toujours trouvé d'ailleurs que les prénoms italiens ont l'art de transformer les prénoms français en quelque chose de beaucoup plus joli, hein. Par exemple, Henri, ben, c'est Enrico. C'est vrai que ça c'est plus porteur quand même. pour une femme, je pense. et donc, du coup, c'est une jeune femme, elle aussi, un peu, je dirais pas abîmée, mais un peu éraflée par la vie quand même. Elle a vécu des choses un petit peu difficiles. Et elle retrouve là un père, un frère, et elle est d'un fort caractère. Il le dit d'ailleurs, la vie a fait qu'elle est restée petite de constitution, mais forte de caractère. Alors que lui, il a l'impression qu'il est resté assez faible de caractère, mais qu'il a poussé en viande, comme il dit.
Et donc, Giovanni aussi, c'est, voilà, ils sont tous les trois. Et voilà que Monica décroche un travail à Lausanne auprès d'un riche entrepreneur, dont elle s'était prise d'ailleurs. Alors, le trio, elle va, grâce à Monica, ils vont être employés. C'est une sorte d'hôtel de luxe, enfin, aussi Clamène. Et auparavant, je crois que de Morvan, il aura perdu son père.
C'est ça. Et en fait, il l'a perdu dès le début du roman. C'est voilà. Ça qui le pousse sur les routes, en fait. Il veut changer de vie. Et on fait ça souvent, en pensant que quand on va changer de vie, surtout changer d'endroit, parce que on va changer de vie. Mais souvent ça marche au début, mais vos démons vous rattrapent et finalement la vie qu'on construit plus loin, elle est pas forcément meilleure. Moi, je l'ai beaucoup perçu, parce que je suis d'une région du Jura, montagne Jura, et c'était les premières montagnes qui arrivaient depuis quand on venait depuis le nord. Et dans le temps, les communes du nord envoyaient leurs enfants, des fois des enfants qui étaient de milieux défavorisés hein, quand même, en vacances, la neige, et ils venaient passer une semaine à côté de la ville où j'habite. Et du coup, ces jeunes enfants, devenant adultes, on pensait que le Jura, c'était le pays des rêves, parce qu'ils avaient passé là une semaine magnifique et merveilleuse. Et évidemment, quand ils arrivaient avec tout leur bagage, parce que leur vie dans le nord n'était pas très agréable, ils s'apercevaient qu'au bout d'un moment il faisait quand même très très froid, que finalement la Suisse il n'y avait pas tant de travail que ça, et etc. C'était pas l'Eldorado qu'on leur avait promis, enfin qu'ils avaient imaginé plutôt. Donc lui c'est un peu ça, il se dit je vais recommencer ma vie ailleurs, je pars. Et il part et en fait il se fixe tout de suite parce qu'il rencontre ces deux personnages.
Oui.
Et ce qu'il voulait, c'était pas forcément changer de lieu, c'était de trouver d'autres compagnons de route.
Alors ils partent tous les trois, enfin ils arrivent au Cyclamen. Alors Cyclamen c'est un peu une sorte de parenthèse enchantée, c'est un lieu un peu à la Thomas Mann, je sais pas comment vous dire, ou à Stefan Zweig.
Oui, c'est ça, plutôt à la Stefan Zweig, ouais. Une espèce de pension de famille un peu pour personnes fortunées. J'ai beaucoup aimé les romans de Stefan Zweig, donc j'aimais bien cette histoire de bord du lac, avec des histoires un peu passionnelles et passionnées.
Alors ils arrivent, et puis c'est vrai que le Mont Blanc, c'est une présence tutélaire aussi, enfin la montagne en général, parce que je tiens à préciser, Bénédicte Bellepoix, il y a ce trio, il y a les êtres, les rencontres, et puis il y a, moi ce que j'ai aimé, et ça correspond au titre de votre livre, c'est l'esprit des lieux.
Oui, j'ai une grande passion pour les lieux, j'ai beaucoup de mémoire. Des lieux, plus que des gens d'ailleurs. Je me souviens pas des prénoms, des noms, mais je me souviens exactement des endroits. J'ai une espèce d'appétence pour les lieux comme ça, parce que déjà je fais beaucoup beaucoup de randonnées, donc je traverse les lieux et je trouve que les lieux vous constituent. C'est-à-dire que si vous habitez au pied d'une montagne particulière, vous faites partie intégrante de cette montagne. Elle vous habite, vous la voyez. Je pense à ma fille par exemple qui a une vue sur le Mont Blanc. Bah tous les matins, elle le voit, le soir, le midi. Enfin, il n'a jamais la même tête, il est toujours particulier, et ça peut être une petite colline, et ça vous constitue. Et je trouve que, moi, les lieux me parlent parfois plus que les humains. Donc oui. C'est très, très important pour moi, effectivement.
C'est important, et puis il y a la complémentarité aussi, on dit chaîne de montagne, il y a petite montagne, il y a des vallées, et je pense que pour les êtres humains, c'est un petit peu la même chose. Il y a des... Chacun a ses points forts, ses atouts, ses points faibles. Et tous les trois se complètent à merveille.
Exactement, c'est les lieux. Alors, dans mes livres, il y a souvent, dans mes romans, il y a souvent des histoires de lieux. Et alors, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, c'est très important pour moi, parce que je n'ai pas ce que j'appelle le lieu ultime. Je ne sais pas, je discutais avec mes filles il n'y a pas très longtemps à un repas de famille, et je leur disais que j'avais été à un enterrement. Je trouvais que les textes, c'était une personne que je connaissais pas, mais les textes qui parlaient de cette dame qui était décédée, je les trouvais assez, comment je pourrais dire, assez banal, basique, et je me disais non, je pense que, et je plaisantais avec mes filles en disant, vous inquiétez pas, le jour de mon enterrement, j'aurai fait les textes. Donc, vous aurez ma vie en long, en large, en travers. Donc, comme ça, au moins, je serai sûre que c'est bien fait. Et elles m'ont dit, comme ça, mais au fait, tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Et là, ça a été un grand vide en moi parce qu'en fait, je ne sais pas. Je suis une grande déracinée, moi. J'ai passé mon enfance en Algérie.
Oui.
On est arrivé en France. Après, je suis partie dans différentes villes du Doubs. On est un peu arrivé comme cheveux sur la soupe dans cette région qu'on ne connaissait pas du tout. Et du coup, si on me disait demain, il faut partir, je ne sais pas, à Bayonne pour refaire ta vie, j'y vais. Ce n'est pas un problème. Je suis attachée au lieu, mais par exemple, j'ai une passion dévorante pour l'Espagne, mais je ne peux pas définir un lieu vraiment. J'aime la Galice, j'aime la Castilla-La-Mancha, et si je me posais à un endroit, j'aurais l'impression de perdre les autres. Donc, je n'ai pas ce lieu ultime, alors que vous avez des gens parfois qui vous disent, j'en connais, moi je suis née là, je suis allée à l'école ici, je mourrai là. Et je trouve, ça me laisse toujours un petit peu triste, parce que je me dis, mais moi je ne sais pas où vraiment, je suis un éléphant qui ne sait pas où est son cimetière. Donc voilà, c'est une problématique qui me touche beaucoup, les lieux.
Est-ce que vous pourriez nous lire le début de votre...
Oui, bien sûr. Alors, je m'arrête là, je pense. Hein. C'était dimanche, alors je suis allée me promener, refaire la balade qu'on faisait tous les deux le matin, quand il allait bien, qu'il n'avait pas trop bu la veille. Un chemin plat, bordé d'herbes jaunes et de déjections canines, parallèle à la route. Chez nous, c'est l'Ardèche des pauvres, celle où l'on ne fait que passer, par hasard, quand l'autoroute encombrée vomit ses hordes de vacanciers assoiffés de soleil qui tentent désespérément d'éviter les bouchons rituels. Itinéraire bis, seconde zone d'un département. Une bourgade éventrée par une nationale surchargée, une poste ouverte 2 heures par semaine, des commerces moribonds, une église fermée où même Dieu ne vient plus. Ici, pas de folklore, pas de fromage de chèvre, pas de marché où des postes 68 à retarder vendent de l'encens made in China, pas de pain bio ni de macramé, pas de châtaignier séculaire. Plus de mines non plus, plus d'usines, plus de travail. L'hiver, la ville semble gangrénée par la grisaille. Elle devient triste et sale, nauséabonde d'égouts refoulants. Et si le soleil revient, il n'arrange rien, bien au contraire. La mélancolie vous assaille alors plus intensément. La simple vue du Rhône au palaissant descendant vers la mer, sous le pont de fer, vous colle un vague à l'âme de poète maudit. Si vous traversez le pont et poussez jusqu'à l'autoroute, ce sont les camions rutilants, filant vers l'Espagne, qui vous attristent. Ce même mouvement, cette même rapidité dans la lenteur pour vous fuir, vous donne le sentiment de rester doublement là, accroché à la misère, avec pour seule et unique distraction les feuilles mortes des platanes qui tournoient dans un mistral perdant.
Merci beaucoup, Bénédicte Bellepoix. Et c'est vrai que je vous ai fait lire ce premier paragraphe, parce que c'est un peu comme un peintre. Vous nous... Tout d'emblée, vous nous mettez dans le paysage, vous nous mettez dans ces terres abandonnées, dans ces territoires.
Voilà, parce que quand on parle de l'Ardèche, on voit souvent l'Ardèche des vacances, Vallon Pont d'Arc, etc. Une Ardèche rieuse, joyeuse, ensoleillée. Mais il y a aussi une Ardèche des pauvres, donc, qui est assez triste, assez abandonnée. Il y a beaucoup, beaucoup de maisons fermées, de abandonnées, les vieilles personnes sont décédées certainement, il n'y a pas toujours des héritiers. Et je me suis retrouvée dans ces villages en octobre, moi, et j'ai trouvé ça d'une tristesse extraordinaire, alors que j'avais plutôt une vision, effectivement, assez joyeuse de l'Ardèche, parce que moi, l'Ardèche fait partie de mon triangle d'or, parce que je randonne beaucoup, donc c'est la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche, donc je l'ai traversée de part en part, mais nulle part ailleurs qu'à cet endroit-là, j'avais senti cette tristesse, cette désolation, je dirais même. Cet abandon, abandon de services publics, abandon de tout le monde. Hein. Il y a personne ne fait grand-chose pour ces villes qui survivent plutôt que vivent.
Ouais. Alors, il y a l'abandon des territoires, il y a l'abandon des êtres, et il y a le père. Papa avait l'habitude, il parvenait à enfiler en quelques jours son costume de père dépassé qui tente de faire au mieux pour son fils. Ça, c'est une phrase pour situer le portrait du père. Une autre, je vous cite encore, « J'ai fermé la porte et j'ai laissé la clé dans sa cachette habituelle que seul papa et moi connaissions. Un petit trou dans la façade dissimulé derrière le rosier au cas chétique qui menaçait de crever tous les ans. Pourtant, à chaque printemps, il puisait du sol, exsangue, assez de force pour faire quelques feuilles, vite attaquées par les pucerons, et une ou deux roses énormes et veloutées d'un rouge cardinal. Le bouquet final d'une mort qui ne vient pas. J'ai versé à son pied le reste du maigre terreau d'un pot de géranium séché et une bouteille d'eau du robinet extérieur. Une avance substantielle et un adieu définitif. Donc, débrouille-toi avec ça, l'ami. Ce rosier, je me suis rendu compte que c'était à peu près la seule chose que j'éprouvais, des scrupules à laisser derrière moi, parce que papa l'aimait beaucoup. Donc, il y a cette notion de terre, d'héritage. Oui.
Et lui, c'est un maigre substrat, comme lui dit son père. Parce que son père a l'habitude, c'était quelqu'un d'intelligent, il a l'habitude d'utiliser un vocabulaire. C'est pour ça que Morvan, il n'a pas le vocabulaire d'un enfant de la balle, je dirais. Il parle très bien, parce qu'il a beaucoup écouté son père, qui lui disait des mots qu'il ne comprenait pas toujours, mais évidemment, avec le temps, il apprend à les apprivoiser. Et il y a quand même il laisse derrière lui quelque chose. Il laisse aussi son père, l'âme de son père, on dirait, et ce fameux rosier.
Oui. Bon. D'ailleurs, vous écrivez, il disait qu'il était comme lui, à tenter de vivre malgré la souffrance sur un si maigre substrat. Je me souviens bien du mot substrat et d'autres encore que je ne comprenais pas toujours. Il était intelligent, papa. Il parlait bien, même quand il était perdu. Il était professeur de lettres avant ma naissance. La terre mouillée a dégagé une bonne odeur de remerciement et j'ai cru entendre le rosier soupirer d'aise. Donc, il y a cette notion de terreau fertile, Bénédicte Bellepoix.
Oui, c'est ça. Maigre, le terreau. Ouais. Très maigre, oui. Mais quand même. Et qui reste... Et puis, ce rosier, il a une importance. Il prendra un peu plus d'importance dans le roman. C'est effectivement la réincarnation de son père pour lui. C'est-à-dire, comment on peut être maigre, cachectique, presque mangé par la vermine, et pourtant faire deux roses magnifiques. Et on croit que c'est justement le bouquet final, et qu'après, il va mourir, et non. Pourtant, chaque année, il est là, et chaque année, il refait ces deux mêmes roses magnifiques. Et je trouvais que l'image était assez jolie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de patientes et de patients qui étaient comme ça, qui on se disait toujours, ils sont au bord du gouffre, et puis c'est quand même deux roses magnifiques. Et ces deux roses, si on prenait un peu le temps de les regarder, on se disait qu'elles étaient quand même vraiment belles et très parfumées.
Et puis ça ne coûte rien.
Exactement, ça ne coûte rien.
Ça coûte rien. Je pensais souvent à papa, mais il prenait moins de place. Il s'effaçait peu à peu de ma mémoire, délayé dans une vie quotidienne riche de petits événements sans importance, mais qui me donnait néanmoins le sentiment d'engranger la joie du souvenir, de la satiété. J'aurais pu rester là toute ma vie, à regarder le Mont Blanc rosir le soir. Je ne voulais plus le gravir. Je me sentais suffisamment fort en bas dans la vallée. Je n'ai pas l'étoffe d'un héros de toute façon. Même s'il n'a pas l'étoffe d'un héros, votre personnage, il va faire son petit bout de chemin.
C'est ça. Mes héros sont toujours des êtres un petit peu... vous savez, on les rencontre dans la rue. En venant, sous l'arrêt de bus, il faisait une chaleur magnifique et très, très, très forte. Et il y avait une vieille dame qui a commencé à me parler, à me raconter des choses, parce qu'elle faisait la pause, comme moi, à l'ombre. Et je trouve que les héros du quotidien m'intéressent plus que les héros de la télévision ou des réseaux sociaux. Et cette femme, elle a commencé à me raconter sa vie et je me suis dit, j'avais peur d'arriver en retard. Bon, j'ai pas écouté, mais je pense qu'il y aurait, j'ai très peu écouté. Je pense qu'il y avait matière à faire un roman, déjà rien qu'avec ça. Et souvent, c'est ça aussi. Les gens, des fois, ils vous disent une phrase ou ils vous donnent un petit morceau de leur vie comme ça. Et moi, je fais que ça. Au début, quand on me demandait, je disais, je prends un bras ici, une jambe là, et je fais un assemblage. Pardon. Mais c'est pas vrai, je prends une émotion là, et une émotion ailleurs, et j'en fais un personnage. Mon terreau, mon substrat, c'est les émotions. C'est ça qui m'intéresse. Parce que même les lieux, encore à la limite, si vous tapez Morvan, vous allez avoir des magnifiques images du Morvan, vous allez voir le Morvan. Mais si vous tapiez Monica, vous auriez rien, vous sauriez pas qui est cette femme. Et c'est ça qui m'intéresse.
Et Morvan, c'est quand même une région délaissée. Enfin, c'est une région pauvre.
Oui, c'est une région pauvre qui commence un peu à sortir un peu de la misère, mais c'est vraiment une région encore un peu délaissée, effectivement. Mais Peut-être un peu moins que certaines zones du Massif central et de la Lozère. Mmh. Mais parce qu'il y a, comme Dijon qui est très proche, il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons. Et donc, ça reste, voilà, c'est pauvre, mais moins que la Haute-Loire, par exemple, je trouve.
Vous prenez des notes pour vos personnages? Vous avez des petits carnets? Comment ça mûrit en vous?
Ah non, j'ai une bibliothèque personnelle dans ma tête. Et en fait, ce que je fais souvent, c'est quand je vis une émotion, j'essaye de l'écrire tout de suite. Je disais en plaisantant, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait engueuler, il n'y a pas d'autre mot, un feu rouge, et le monsieur m'a dit, injure suprême, va faire ta vaisselle et connasse. Ça m'a fait rire. J'ai juste eu le temps de répondre, ah mais j'ai un lave-vaisselle. Mais en même temps, un peu plus loin, la colère un peu est venue en moi. Je me suis dit, comment on peut avoir dire une telle bêtise? Et puis surtout, voilà, le temps, c'est le temps. Mais la colère est montée en moi, et quand je rentre chez moi, j'écris la colère. En quelques phrases, ce que j'ai ressenti, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est là. Et après, je la mets de côté. Mais quand je vais avoir besoin d'une certaine colère dans mes romans, je vais la sortir, cette colère-là. Parce que je ne l'ai jamais aussi bien écrite que de l'avoir vécue. Et sur le moment. Alors, c'est des fois deux phrases, hein. C'est ça que je fais. Mais sinon, les émotions particulières, c'est des histoires qu'on m'a racontées, où j'ai été particulièrement émue. Celles-là, elles me resteront à vie. Je les ai dans ma bibliothèque personnelle intérieure. Et des fois, ça. Et des fois, je l'oublie. Et quand j'écris, je me dis, ah, c'est vrai, cette histoire-là, mon Dieu, comme ça m'avait touchée, ou par exemple, quand je fais mon jardin, etc., il y a tout d'un coup un truc qui me revient de quelqu'un qui a laissé, moi, je dirais, une empreinte en moi. Et j'essaye d'écrire avec mes mots à moi cette émotion, son émotion. Et d'ailleurs, souvent, c'est pour ça que j'avais un peu du succès, on va dire, dans ma carrière, parce que j'écrivais pas encore du tout, hein, je savais pas que j'allais écrire, mais j'arrivais peut-être un peu plus facilement à mettre en mots les émotions des gens. Et souvent, c'est des gens qui sont vraiment très éloignés du vocabulaire, hein, même ils ont quelques pauvres mots pour s'exprimer. Et quand ils me disaient une émotion très forte pour eux, et je la ressentais, et je leur disais, mais c'est ça que vous voulez me dire exactement? Je reformulais tout bêtement, hein, avec mes mots à moi. Et ils me disaient, c'est exactement ça. Il y avait même des dames qui me disaient, faut m'écrire ça. Parce qu'en fait, je voudrais dire ça à mon mari ou à mon frère ou mon père. Et je crois que c'est ma qualité, c'est de déjà ressentir l'émotion, et qui n'est pas la mienne, et d'arriver à la mettre en mots.
Merci beaucoup, Bénédicte. On va faire une petite pause musicale et nous reprenons route vers Morvan dans quelques instants.
La mélancolie. La mélancolie c'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est 10 ans de purée dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie c'est un chat perdu qu'on croit retrouver, c'est un chien de plus dans le monde qu'on sait, c'est un nom de rue où l'on ne va jamais. La mélancolie, c'est se retrouver seul, place de l'opéra, quand le flic t'engueule et qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracté, ouvrir la télé et regarder distrait un citron pressé, te parler du tiercé que tu n'as pas joué. La mélancolie. La mélancolie. C'est voir un mendiant chez le conseil fiscal, c'est voir deux amants qui lisent le journal, c'est voir sa maman chaque fois qu'on se voit mal. La mélancolie, c'est revoir Garbeau dans la reine Christine, c'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin, c'est Victor Hugo et Léopoldine, la mélancolie. C'est sous la teinture avoir les cheveux blancs et sous la parure faire la part des ans. C'est sous la blessure voir passer le temps. C'est un chimpanzé au saut d'envers qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver. La mélancolie, la mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux, c'est les bras du bien quand le mal est beau, c'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop. La mélancolie, c'est voir dans la pluie le sourire du vent et dans l'éclaircie la gueule du printemps, c'est dans les soucis voir que la fleur des champs. La mélancolie, c'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard et rentrer peinard. C'est avoir le noir sans savoir très bien ce qu'il faudrait voir. Entre loup et chien, c'est un désespoir qu'a pas les moyens. La mélancolie. La
bien sûr Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Bénédicte Bellepoix pour un très beau roman qui s'appelle Morvan et ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors Bénédicte Bellepoix, c'est vrai, on vous avait présenté votre personnage, Morvan, son père, on en a parlé, il vient de perdre son père, il a des amis, c'est sa famille en fait. C'est le roman de comment on fait sa propre famille, comment on choisit sa famille d'élection. Et Monica. Alors Monica, c'est vrai qu'elle a, c'est un personnage aussi. C'est finalement c'est le fil conducteur, Monica, de votre roman.
Oui, oui, c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur. C'est pas le personnage principal, parce que vraiment Morvan, ouais. c'est ça, c'est lui. Mais c'est sans elle, il y aurait ni Morvan, ni Giovanni, ni les autres. Elle est vraiment, je veux dire, le fil rouge, la maman, bien qu'elle soit jeune. Elle drive un peu tout son petit monde et heureusement qu'elle est là parce que au début du roman, sans elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est à un moment donné la leadership, elle maintient tout le monde en survie, et puis tout d'un coup elle va s'effondrer elle, et c'est les autres qui vont prendre le relais et qui vont s'occuper d'elle. C'est ça qui me et j'ai vu souvent ça dans des même dans ma propre famille finalement, où à des moments donnés c'est un des personnages qui s'occupe des autres, quoi. C'est vraiment le système. Hein, tu dis ça en systémie, mais c'est, moi je suis très d'accord avec ça. Les familles sont fluctuantes et au fur et à mesure de leur vie, elles changent un petit peu de système.
Alors ça, je ne sais pas, c'est votre personnage qui écrit. Au fil de nos après-midi, je comprenais que ce qui nous rapprochait le plus, elle et moi, c'était notre enfance avec nos parents en carton pacte. Mais je sentais bien qu'elle en avait retiré la force, la vigueur, la colère qui m'avait fait défaut. Ça, c'est de Monico. Hein,
voilà, elle est perpétuellement en colère. Ouais. Et elle est en colère contre le système, contre elle-même, contre tout le monde. Mais ça lui donne une certaine force. Et au lieu de la pousser, parce que Moi, dans ma vie, j'ai eu souvent, c'est la colère vous pousse à faire des choses vraiment extraordinaires ou vous pousse dans la dépression, des fois. Et c'est pour ça que des fois, les dépressifs vous énervent beaucoup. Parce que moi, je m'étais fait la réflexion comme ça. J'avais une patiente qui était toute molle, tout le temps, toute dépressive. Et des fois, elle m'insupportait. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi cette femme m'insupporte? La pauvre, elle est dépressive. Pourquoi j'ai tant de colère pour elle? Est-ce que cette colère que je ressens envers elle, peut-être que c'est pas la mienne, finalement. Peut-être que c'est la sienne. Et j'avais osé lui poser la question en consultation. Je lui avais dit, madame, je vais vous poser une question un peu bizarre, mais est-ce que vous seriez peut-être... Est-ce que vous êtes en colère? Et c'est une femme qui parlait très peu, hein, et elle s'était mise à pleurer. Et je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. C'est pas ma colère à moi, je trouve une fille gentille, je vois pas pourquoi je serais en colère contre elle. Et longtemps après, elle m'avait dit, vous savez, votre question a changé beaucoup de choses en moi. Et c'est quelqu'un qui est allé voir après, qui a consulté, parce qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement, cette colère, des choses qu'on peut pas dire, des choses qu'on n'a pas dites, la pousser vers quelque chose de dépressif plutôt.
Et on retrouve ça dans votre roman Bénédicte Bellepoix, parce que vos personnages se parlent avant d'arriver dans ce fameux hôtel 5 étoiles, si on peut dire, ils se parlent. La rue, elle entre par petites touches. Tu crois toujours que demain ce sera mieux, que c'est passager, que tu vas trouver des ressources. Il te reste encore quelques miettes de confiance en toi. C'est seulement quand tu regardes en arrière, que tu fais l'autopsie de ta déchéance, que tu te demandes comment tu as accepté, où a commencé l'anesthésie et qui a pratiqué la lobotomie. Donc ça, il y a vraiment des échanges, hein. Là, je crois que c'est Monica. Elle a réfléchi un moment et elle a ajouté « Ma tante disait toujours que les femmes sont plus solides devant le désastre parce qu'elles se sont tellement esquintées à donner la vie depuis que le monde est monde qu'elles savent ce qu'elle vaut, son prix exact. » Donc il y a l'expérience, il y a une expérience. Et votre roman est toujours ce dialogue entre la maturité, l'immaturité, l'expérience, la non-expérience.
C'est ça, je pense que l'expérience des autres ne vaut rien. On peut l'entendre, on peut la lire, on peut la voir, mais quand vous êtes touché vous-même personnellement, que vous faites votre propre expérience, ça a une grande valeur. Juste la chose que je reproche, c'est quand on vieillit, je le fais moi aussi, hein, on a tendance quand même à penser que sa propre expérience est à valeur de loi. Faire très attention. Moi, j'ai eu une vie avec une certaine expérience, donc j'ai certaines idées, mais je m'aperçois que mon expérience est mon expérience de ma génération à une certaine époque, mais qu'elle n'a aucune valeur pour les générations suivantes ou précédentes. Donc, il faut faire attention avec « oui, je te l'avais bien dit, ouais, de toute façon... » Bon, je pense qu'on a cette tendance-là quand on vieillit. Il faut faire très attention.
Alors, il y a tous les trois vont refaire leur vie, si on peut dire, puisqu'ils sont employés au Cyclamen. Alors, les Cyclamen, moi, je pense vraiment, vous avez l'esprit des lieux, Bénédicte Bellepoix, parce que on est hors du temps. Voilà, on est totalement hors du temps. C'est peut-être le rôle de la littérature de nous mettre aussi hors du temps. On va proposer donc à Morvan d'être jardinier. Hein, alors il dit, moi je voulais un jardin italien comme ceux des villas somptueuses sur les bords du lac de Caune. Il m'apparaissait que ceci avait réussi le miracle du subtil mélange entre la rigueur trop stricte du jardin à la française et la rigueur trompeuse anarchie du jardin à l'anglaise. Pour moi, les Italiens cultivaient l'art de l'entre-deux, peut-être aussi parce qu'ils réussissaient à mélanger les époques en faisant cohabiter sans dissonance la romantique, la renaissance et le romantisme. Et vous réussissez à faire à ce que dans ce lieu cohabitent trois générations, j'allais dire, le passé, le présent et le futur presque. Enfin, il y a plusieurs générations. Et je trouve que le lieu est bien, bien vu. Et ce rôle de jardinier, alors j'ai pensé à Jean-Paul Gou qui avait écrit sur les jardins, on pense aussi à Gracq un petit peu. Quelles sont d'ailleurs vos admirations littéraires, Bénédicte Bellepoix?
Ah, moi, mon maître à penser, c'est Giono, Jean Giono. Ouais. Vraiment, c'est. Pourtant, je l'ai découvert tôt, hein, ça peut paraître hermétique pour des ados aussi. Mais lui, je pense que j'ai tout lu. Tout. Je l'ai dans la Pléiade, évidemment. Et j'ai particulièrement aimé cette période, je crois qu'on appelle la période bleue, où il y a Regain, Anne Beaumugne, et excusez-moi, mais le troisième m'échappe.
Colline.
Et, c'est pas Colline, ça va me revenir. Mais cette, cette description de la nature, je trouve ça sublime. Et puis, Que ma joie demeure. Moi, Que ma joie demeure, c'est un livre que j'offre à des gens désespérés. Est-ce que c'est magique, cette entrée en matière où c'est un paysan qui se lève à 3h du matin et dit je vais aller labourer. Et il attend quelqu'un. Et à un moment donné, il fait des sillons dans le sol et il se dit je vais me retourner, et là, il sera là. Et se retourner, il est là. Un personnage qui arrive de nulle part. Enfin, c'est. Pour moi, c'est presque le Christ, enfin, je ne sais pas, mais j'adore cette écriture, c'est vraiment mon maître à penser. Cette description aussi des lieux, très poétique, je ne lui arrive pas la cheville, hein. Mais c'est magique pour moi.
Et aussi, on a l'impression que les lieux sortent de terre. Non, les lieux sortent de terre. Qu'est-ce que je vous dis ? Les personnages sortent de terre. C'est-à-dire, par exemple, votre personnage, il dit « Je me sentais enfant dans ce décor, petit garçon », parce que c'est un terrain de jeu qu'on lui offre, finalement.
Exactement. Et parce qu'il n'a pas eu d'enfance, le pauvre. Et du coup, il voit des paysages que ouais, c'est la Suisse comme on la voit sur les barres de chocolat ou sur les boîtes de crayons de couleur. Et du coup, il est enchanté et il a jamais quitté son Ardèche. Et là, tout d'un coup, c'est un monde rêvé, merveilleux pour lui. C'est le rêve, exactement.
Voilà ce que vous écrivez. J'ai dû rester longtemps dans ma rêverie solitaire. J'ai vu le ciel rosir, le lac s'assombrir, les parfums et les bruits monter en puissance. Dans mon dos, la ville s'est mise à vrombir, d'éclats de conversation, de moteurs pétaradants, de rires et de cris d'enfants. Je ne voulais pas rentrer, alors j'ai erré au gré des rues, attiré par les lumières, pauvres moustiques, la cathédrale en ligne de mire. La nuit s'épaississait, elle avait jailli des ombres, taché les murs, rempli les rues pour grimper jusqu'au ciel en une boue noire sans étoiles. Naturellement, je montais vers les Cyclamènes en prenant les rues inconnues et je souffrais du dénivelé. Je n'avais plus mes gorgones pour me stimuler et j'étais chargée du poids de ma mélancolie. Arrivée à la pension, j'ai rasé les murs jusqu'à ma chambre, je ne voulais parler à personne.
C'est la nuit qui vient et il a eu une période, enfin un éclat. Il s'est passé quelque chose de très important au niveau de la pension et il est parti comme un fou. Il est descendu au lac et au lac, ce lac magnifique du lac Léman. Et il s'est apaisé, mais en remontant, le poids de ses inquiétudes le reprennent et naissent dans la nuit. Qui n'a pas été angoissé par cette venue de la nuit qui des fois est vraiment très très noire quand même. Et voilà, il remonte, il veut pas parler, il est très atteint. Alors je peux pas raconter le livre, mais c'est un épisode très douloureux pour lui, ce qui s'est passé là.
Et puis il y a un personnage, la Duquesita. Alors c'est une femme qui a existé d'ailleurs, c'est un personnage. Voilà comment vous la décrivez, parce que vous avez vraiment l'art du portrait, hein, Bénédicte Bellepoix. Elle a tellement de silicone dans les lèvres que ce n'est plus une bouche qu'elle a, c'est un groin. Ses cheveux, à force de les faire friser et décolorer toutes les semaines, ils repoussent naturellement, tout désingué, comme si on les avait passés au briquet. La duchesse, en vrai, c'est une vieille Barbie défoncée avec un bec de canard et une tonsure de brebis malade. Voilà pour le portrait. Présentez-nous cette femme qui est quand même très émouvante. Elle est en fin de vie. Elle est en fin de vie, mais elle laisse sa chance à d'autres vies. Enfin, c'est quelqu'un qui est en fin de vie, mais qui est pleine de jeunesse, finalement.
Ah oui, c'est une femme merveilleuse. Alors, c'est une amie, au sens... Je la connais pas vraiment. Elle existe vraiment, c'est une grande d'Espagne. Elle est décédée depuis, mais en fait, je dis c'est une amie parce que comme je randonne aussi beaucoup en Espagne, au gré du vent, comme ça, le soir, en général, j'arrive dans un petit village, je vais au bar, je mange un morceau, je bois un verre de vin. Et elle, quand j'étais à l'occasion de j'avais fait un grand périple quand même en Espagne, je la retrouvais tous les soirs, parce que dans les bars, évidemment, il n'y a pas de bar sans immense écran qui braille à longueur de journée. Et tous les soirs, je pourrais dire que je mangeais avec cette femme parce qu'à l'époque, elle avait 83 ans et elle voulait épouser un jeune homme de 51 ans. Donc, comme elle était très très riche, et lui, c'était un petit fonctionnaire, il n'avait pas d'argent, évidemment, ça faisait les choux gras de la télévision. Et donc, tous les soirs, on y avait droit, entre ses six enfants qui perdaient un peu pied en ayant peur pour l'héritage, les détracteurs qui disaient cette vieille folle, ceux qui la défendaient en disant, mais non, c'est une féministe, maintenant, elle fait ce qu'elle veut, etc. Donc, bref, et on avait je dirais, en boucle des morceaux de sa vie, des interviews. Donc, moi, j'avais l'impression de m'attabler tous les soirs avec elle. Et c'était devenu une amie, parce qu'au début, je me disais, c'est qui cette vieille peau, excusez-moi de l'expression, parce qu'elle est vraiment très laide. Et en fait, je l'ai découvert, cette femme. Et je me suis dit, mais je trouvais les gens particulièrement méchants avec elle, enfin, les journalistes, enfin, c'est pas toujours des journalistes, mais les commentateurs. Et puis, je me disais, mais c'est vrai que ce serait l'inverse, ce serait un monsieur de 83 ans avec une dame de 51 ans, ça ferait sûrement moins de bruit. Et puis, je me disais, mais en l'écoutant parler, mais elle a raison, et même pour sa chirurgie esthétique qui vraiment l'avait rendue très laide, je me disais, mais je peux comprendre. Mmh. Et j'aurais voulu la défendre, en fait. Mais comme je ne pouvais pas le faire dans la vie courante, je l'ai fait dans mon roman.
Ouais. Non, mais c'est bien. En plus, il y a un côté mille et une nuits, c'est-à-dire que Morvan, il n'a pas forcément les mots pour le dire. Mmh. Et elle a la parole. Mmh. Dès qu'elle ouvrait la bouche, je restais suspendue à ses mots. Sa voix chaude et grave m'engourdissait tout en tant que ses récits m'ensorcelaient. J'étais à sa merci. Serpent hypnotisé par son pipeau, je retrouvais dans ses histoires un peu de ma fascination d'enfant pour les contes de mon père. Il y avait une grande similitude entre deux, la même volonté de m'offrir un espace onirique pour me charmer et me garder captif, prisonnier de leurs mots avec lesquels ils savait si bien jongler. Car c'est vrai, quand on se souvient de quelqu'un, d'une rencontre, on se souvient aussi de ses mots, de ses récits, de ses paroles.
C'est ce que je crois, c'est le pouvoir des mots. Avec les mots, ils ont beaucoup d'impact pour moi. C'est pour ça que je fais très attention avec la politique, parce que je pense que quand on dit bien les choses, je suis capable d'accepter n'importe quoi. Donc je fais très attention. Le pouvoir des mots est très très fort. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous mettez un régime totalitaire au pouvoir, vous commencez par couper des têtes, et généralement, c'est les intellectuels. Cette femme, elle séduit avec ses mots. Elle séduit avec ses histoires. Elle séduit. Elle offre effectivement un espace de rêve qu'il n'y a pas dans la vie de tous les jours. Et lui, qui retrouve un peu de son père, mais aussi retrouve une. Il commence à comprendre une certaine féminité, une certaine maternité. Elle est tout pour lui, cette femme. Elle est une mère, une sœur, une amante, tout ce qu'on veut. Donc, elle est la figure féminine, je dirais pas maternelle, mais figure féminine qui lui a manqué terriblement.
Elle le réconcilie un peu avec cette féminité.
Voilà, elle le réconcilie, elle lui apprend beaucoup. Elle est douce, apaisante, elle est ce qui lui manque, en fait. Donc, parce que Monica, oui, est très féminine, mais Monica, elle lui manque une part de douceur, parce qu'elle aussi, elle a eu une enfance un peu difficile. Donc elle n'est pas souvent capable d'être assez douce.
J'ai vite pris l'habitude de monter dans sa chambre le dimanche soir après le repas. Quand je pénétrais dans son appartement, c'était toute l'Andalousie qui m'accueillait en une multitude de statues, tentures, meubles, une profusion d'objets, de cadres, de bibelots que je découvrais à chaque visite, une sorte de petit musée que je pouvais parcourir à mon gré. C'était le condensé de sa vie. Donc là, on y est complètement.
Alors moi, j'y étais parce que du coup, effectivement, je suis tombée un peu en adoration dans cette femme. Et je suis allée dans ces palais qui se visitent, notamment le palais de Liria à Madrid, et puis sa maison à Séville. Et son palais le palais de Liria, là, c'était exactement ça. C'était une succession de pièces et de petits souvenirs, des choses qu'on lui a offertes, parce que évidemment elle était très célèbre, et de petites, mais avec un côté un peu. J'aurais dire assez familier, assez. C'était pas forcément des choses très très chères et très. Il y avait des petits cadres, des petites choses qu'on pourrait voir chez soi, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et c'était toute l'Andalousie. Elle avait une passion dévorante pour l'Andalousie. Elle se sentait plus andalouse que tout. Et d'ailleurs, elle a été très très ennuyée, je le dis aussi dans le livre, parce que quand elle est décédée, elle devait normalement intégrer le mausolée familial qui est à côté de Madrid, mais elle voulait aller à Séville. Et donc, du coup, elle s'est fait incinérer pour qu'il y ait une partie là qui respecte les fondamentaux, puis une partie qui puisse aller quand même en Andalousie. J'avais trouvé ça assez sympathique.
Et puis, je pense que c'est elle l'initie à goûter la vie, finalement, à faire attention. Il y avait des vins secs et nerveux, chevaux lancés à pleine course sur la plage, d'autres ambrés mielleux comme des couchers de soleil, d'autres encore qui appelaient la mer, le sable, les poissons gras. À force de les goûter, je finissais par sentir les subtilités des différences et j'étais heureux de pouvoir les lui dire simplement avec mes émotions si banales. Donc il y a un échange entre eux. Il lui donne un peu sa jeunesse, elle lui donne sa vie, son expérience, sa maturité. Duquesita perdurait, dites-vous, en éternelle jeune fille et pensait vivre encore le grand amour. Elle défendait l'idée qu'il n'y avait jamais de fin et qu'une femme pouvait s'embraser du jour au lendemain, à n'importe quel âge. Selon elle, il en avait même pour les hommes, il en était de même, il en allait de même pour les hommes, mais leur passion était souvent moins théâtrale. On y avait moins accès. Les femmes pleuraient, s'abîmaient, trahissaient, s'enfuyaient, renonçaient. Les hommes donnaient la mort. Donc vous montrez aussi la différence entre hommes et femmes.
Oui, parce que Elle lui apprend la valeur des symboles aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peu de moyens pour quand même sauver son âme, je dirais. Et puis, elle lui montre encore une fois une voix féminine un petit peu plus qu'il n'a pas connue, puisque lui, évidemment, son seul repère, c'est son père. Mais voilà, elle lui explique un peu la problématique féminine, qu'est-ce qui se passe pour les femmes, et elle l'enjolive un peu tout ça, et elle lui apprend beaucoup de choses. Comment les femmes réagissent, comment elles vivent, comment elles pensent, elle donne le code. Voilà, exactement.
Ouais. Nous n'étions pas du même monde, nous n'étions pas dans les mêmes conditions affectives, morales et financières, et pourtant notre volonté de liberté, malgré l'enfermement familial, notre foi dans le mythe du bonheur, sa recherche permanente étaient les mêmes. Je ressentais avec elle cette mitoyenneté de vie que j'avais éprouvée avec Monica au lac de Passy. Je comprenais que ce qui nous rassemblait avant tout était l'universalité des émotions de l'enfance solitaire, de l'adolescence abandonnée, et une certaine difficulté à vivre dans le monde des adultes. Il se redécouvre finalement.
C'est ça. Et puis il s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul surtout. Que lui, en tant que garçon, il peut avoir la même idée de son désarroi que ces deux femmes, une jeune et une vieille. Et du coup, il se sent moins isolé, moins personnage curieux. Ah, il est juste normal en fait, comme les autres.
Alors il y va tous les jours, enfin il va avoir la nuit. Et puis cette femme va mourir. Et là, comme au début du roman, il perd son père, et là il perd un peu sa mère adoptive.
Oui, c'est très douloureux pour lui, c'est très douloureux pour tout le monde, parce que c'était un personnage central qui avait une position très forte. Et voilà, c'est le désastre qui signe d'ailleurs un peu la fin de cette épopée suisse. Mais du coup, oui, cette mort est vraiment tragique pour eux. Il l'avait un peu imaginé, mais en fait, ils la prennent très violemment. Et du coup, lui, il est perdu pendant un petit moment quand même. C'est un monde qui s'effondre.
Un peu l'Éden, ils vivaient dans un Éden, et je me retrouvais seule à présent, amputée de ma part de rêve, et je me demandais comment j'allais pouvoir supporter la vie, celle qu'on divrait, dans l'espace d'onirisme que m'offrait chaque jour la Duquesita. Je savais que maintenant, on rend les morts maquillés, dormant d'un sommeil léger, qui donne le sentiment qu'on pourrait peut-être les réveiller d'une caresse tendre ou d'un mot doux. Je me souvenais de papa et de ma surprise à le voir au funérarium, la peau délicatement rosée, les traits détendus, libérés de la tension, de la pression inexorable de la maladie. J'avais été heureux. Je m'étais dit que maman le trouverait beau quand il venait d'arriver. Donc c'est vrai, il est confronté de nouveau à la mort, mais c'est une mort différente. Et je voulais dire, ça va être une renaissance encore différente.
Voilà, ça va les pousser à changer de lieu, de changer de vie aussi, et de peut-être se débarrasser un peu des carcans extérieurs, de prendre réellement en main leur propre vie, d'être leur propre patron, en fait.
Et donc ils quittent le lieu.
Ils quittent le lieu et ils vont en trouver un autre, dont ils seront peut-être plus à même de décider qu'est-ce qui va devenir. Et ça va changer leur vie, en fait. Mais elle restera toujours là, dans leur cœur, et puis une espèce de... J'allais dire une espèce de vierge laïque, quoi, en fait, une âme qui plane et qui, ou un ange gardien, ce que vous voulez, mais façon ce en quoi on croit, mais une pensée attendrie, et Morvan, il a compris avec elle la valeur des symboles, donc il va faire en sorte qu'elle reste toujours là avec eux.
D'ailleurs, il le dit, elle ne mourrait donc jamais, elle resterait là, à errer sur les ondes, à rejaillir parfois au hasard d'un documentaire, jeune ou vieille, mais perpétuellement dans la lumière, comme elle l'avait été, comme elle l'avait toujours désiré. Et cette pensée me comblait d'une joie qui venait apaiser mon chagrin. Donc, il y a toujours une suite avec vous, hein, Bénédicte Millepoix.
C'est vrai qu'elle mourra jamais, parce que maintenant, il y a une documentation exceptionnelle de ses interviews. Et même moi, quand je retourne en Espagne, des fois, ça m'arrive de tomber sur un petit reportage sur elle, où on la voit parler, etc. Je me dis, mais elle aura... Je pense que dans 20 ans, 30 ans, on reparlera d'elle, parce que c'est quand même donc une grande d'Espagne. Elle ne mourra jamais comme elle l'avait toujours souhaité.
C'est important pour vous, ce jaillissement toujours, un être... Parce qu'on dirait qu'il se passe le relais les uns les autres.
Il se passe le relais. Puis j'ai une grande croyance, c'est que je me dis, on renaît toujours un peu de ses cendres, en fait. Si elle ne vous brûle pas complètement, au bout d'un moment, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui fait que vous attrapez peut-être un petit bout d'espoir. Je le dis toujours, mais je pense que entre les blessures du passé et ce que des fois l'avenir vous murmure, il y a toujours un petit horizon d'espoir, toujours. Même chez les plus démunis.
Oui. La preuve d'ailleurs, j'ai eu le sentiment de refaire le chemin à l'envers, écrivez-vous, de boucler la boucle parentale poussée par un hasard, une coïncidence. Mais ce qui m'importait le plus, bien au-delà de cet étrange retour aux sources, c'était le fait que Monica, pour une fois, avait choisi son destin en pensant à moi. Enfin, on va faire une petite pause musicale.
You're
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui en présence de Bénédicte Bellepoix qui vient de publier aux éditions Gallimard Morvan. C'est son quatrième roman. Bénédicte Bellepoix, donc on suit vos personnages. L'un s'appelle Morvan, l'une s'appelle Monica, l'autre s'appelle Giovanni. Nous venons de parler de la Duquesita, qui est une dame assez folklore, qui habitait donc cette pension, enfin cet hôtel de luxe. Ces Cyclamènes, où ils ont tous les trois travaillé, et puis ils partent, la vie fait qu'ils sont obligés avec la... Ils sont obligés de se mettre finalement à leur compte, enfin, Morvan va être obligé de créer sa propre auberge, si je comprends bien, son propre hôtel.
C'est ça, c'est surtout un désir d'émancipation quand même, parce que justement, ils ont été ballottés jusque-là, et ils se disent finalement, maintenant, ils ont quand même gagné un peu d'argent dans cette pension, ils se disent, on va essayer de choisir notre destin et on ne sera pas tributaire de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui les motive surtout. Donc, et ils cherchent un lieu et évidemment, ils trouvent... au départ, ils voulaient retourner en Ardèche, mais les tarifs sont quand même... l'immobilier sont quand même un peu prohibitifs. Donc du coup, Monica pense à Morvan et elle dit, elle tape Morvan en fait sur son écran et lui, il est ravi parce que en fait, voilà... Il a pensé un peu à lui quand même. Et ils vont se retrouver dans le Morvan.
Donc voilà, on comprend le titre et du livre et de leur périple. Alors ils rencontrent un personnage, je crois qu'il s'appelle Fernand. Oui, donc Fernand, il est aussi très émouvant. Il dit, à bien des égards, il me faisait penser à la Duquesita. Il avait toujours des histoires à raconter sur les gens du coin. Tu lui parlais fortune, il connaissait un paysan qui avait trouvé un trésor en labourant son champ. Une ancienne tombe du temps des Éduins. Tu lui parlais tristesse, il avait une kyrielle de suicidés qui pendait encore tout à fait au bout de leur corde. Et si tu lui soufflais champignons, il avançait des souvenirs, des seaux entiers de pieds de mouton, de girolles, de cèpes et de trompettes.
Oui, c'est ça, mais c'est mes personnages que je rencontre quand je randonne en Lozère et tout. Ouais. C'est pareil, quand je suis dans un bar, il y a toujours un pilier de bistrot qui connaît la région à fond, qui vous raconte des trucs. Et souvent, ils sont adorables parce qu'ils sont des histoires. Voilà, vous lancez un petit bout, ils vous font toute la corde derrière. Et ils vous racontent des trucs. Des fois, je me dis, est-ce possible? Mais oui, je pense que c'est ça. C'est toute la ruralité. Moi, j'aime beaucoup écrire sur la ruralité. Je la retrouve beaucoup en Espagne, c'est pour ça que j'y vais beaucoup. Je la retrouve un peu moins en France, c'est cette ruralité que moi j'ai connue. Je suis une petite fille de paysan, hein. Donc je l'ai connue dans ma jeunesse. J'ai un peu du mal à la retrouver maintenant parce que elle a beaucoup changé, cette ruralité. Mais on la retrouve un peu intégralement en Espagne encore. Et c'est des gens qui sont évidemment très proches de la terre et qui ont une certaine... Je sais pas comment je pourrais dire, mais une certaine poésie et en même temps une certaine rigueur. Ils ont un mélange un peu. C'est des gens qui sont naïfs, mais pas naïfs au sens crétin. Naïfs au sens que ils ont toujours une certaine, je sais pas comment dire, un émerveillement quand vous leur racontez des choses. Ah bon. Et puis ils vous en racontent et si pour un peu vous avez la même admiration comme ça, vous les regardez, ils vous déroulent. Le tapis rouge ouais. Des histoires, quoi. Ils sont très, très prolixes. Enfin, moi, je les adore, vraiment. Et puis, alors, si vous dites, ça m'est arrivé, par exemple, j'étais en pleine saison des champignons en Haute-Loire, et je dis, mais moi, je connais pas les... Je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était des grilles de sapin, je crois. Ben alors, dans le quart d'heure qui suit, il y a eu 2 sauts de grilles de sapin qui sont arrivés pour me montrer vraiment c'était quoi les grilles de sapin. Donc non, c'est des régions que j'adore, avec des gens qui sont très très simples, très formidables. Formidables.
Les terriens. Fernand m'a montré d'un doigt de géographe les étangs, les villes, pendant qu'il désignait toutes les montagnes, toutes les collines, toutes les vallées mieux qu'une carte. Je me suis juré qu'un jour, moi aussi, je connaîtrais tous ces noms, parce que j'aurais arpenté tous les sentiers de la région, grimper tous les sommets et suivi tous les combes, tous les ruisseaux. Pour la première fois de ma vie, je voulais être de quelque part, d'ici, devenir un enfant du pays, un gars qui sait tout, le prochain Fernand. Et là, on touche du doigt le thématique de votre livre qui est l'enracinement et le déracinement. Mais un enracinement choisi.
C'est ça. Et moi, je trouve toujours fabuleux ces gens que je rencontre comme ça, qui me disent, ben là... Je crois qu'ils connaissent le nom de chaque herbe, presque, et parce qu'ils ont, ils ont, monté toutes les pentes, fait tous les sentiers, marché sur toutes les routes. Ils connaissent tout par cœur et ils vous disent « Ah non, c'est pas par là, il faut passer par là, c'est mieux. Là, il y a un sentier. » Et puis après, le chêne, machin, vous tournerez à droite, etc. Et ça me laisse toujours émerveillée, je trouve. C'est mieux qu'un GPS. Pardon.
Ouais.
Ils aiment leur région. Ils la vivent, ils la sentent, je sais pas. Et puis des fois, ils sont habillés avec des pantalons en velours marron. On a l'impression qu'ils font partie, quoi. C'est une espèce de morceau de terre en marche. Et justement, c'est Giono qui décrivait ça très bien. J'ai cette espèce d'image encore dans la tête de sentier où je tombe nez à nez, souvent des gens âgés. Ils ont le parler vrai de leur région, je trouve. Et ils vous la font connaître. Et puis, ils ont des mots, parfois, que je comprends, parce qu'ils sont mis dans une phrase, mais des mots qui sont locaux, vraiment. Et pourtant, ça donne une signification. Enfin, je suis toujours émerveillée, quoi. À chaque fois que je les rencontre, et je disais souvent... où ils ont une espèce de phrase un peu biblique, comme ça, je me rappelle une fois, c'est sur un cause, je ne sais plus quel cause, mes gens, où j'avais marché toute la journée dans une fournaise extraordinaire, il n'y avait personne, pas entre ciel et terre. Je rencontre un vieux monsieur, je ne sais pas d'où il sortait, parce que vraiment, franchement, j'avais l'impression qu'il y avait que... Et je lui dis, dites donc, il n'y a vraiment rien ici. Hein. Et il me regarde comme ça, et d'un ton très... Il me dit, ah oui, madame, pour vivre ici, il faut croire en Dieu. Et voilà, il m'a laissé là. Et j'ai trouvé que c'était... Voilà, c'est ça que j'aime. C'est cette espèce de... J'ai marché une heure avec ça, en me disant, oui, c'est vrai que... Là, pour nous, là... il faut ça au moins, quoi.
Il faut ça au moins. Pendant que Fernand continuait d'épeler la longue liste des forêts profondes, des bocages chantants de mésanges et des hameaux éparpillés au gré du vent, je me suis juré qu'un jour, quand je serai vieux, je monterai ici avec mon fils et que je lui léguerai mon pays. Son pays, sa terre... son substrat, finalement. Son petit bout de terreau où on va faire un peu... On va terminer sa vie. Cette fameuse seconde chance. On l'a ici et maintenant.
Voilà, c'est cette fameuse seconde chance. Et puis aussi cette fameuse transmission.
Oui.
Qui agite... des fois, je pense qu'elle agite parfois un peu plus souvent les hommes que les femmes. Peut-être parce que nous, on en a la maîtrise. J'ai toujours senti ce sentiment très très fort chez les hommes, plus que chez les femmes. De cette transmission, de donner un patrimoine, de donner un patrimoine intellectuel, hein, des fois. Mais c'est, voilà, moi aussi, ça m'agite.
Alors, ils vont créer une auberge, hein, ils ouvrent une auberge, l'auberge de la Duquesita, c'est ça, hein,
c'est ça.
Et puis, il y a des personnages, toujours, qui viennent leur rendre visite, parce que la vie continue. Il s'appelait Jean-Joseph, et Monica l'a tout de suite rebaptisé Maulne, à cause du roman d'Alain Fournier. C'est tellement ça, tellement lui, encore plus grand. Qu'il venait me chercher au jardin et qu'il marchait entre les haies d'un pas tranquille, légèrement pensé en avant, les mains dans les poches de son pantalon. Le grand mot, Nana Fournier, c'est vraiment une lecture qui vous a... C'est vrai que c'est une lecture qu'on n'oublie pas.
Ah, on l'oublie pas, c'est magique, ces descriptions. Puis en plus, encore une fois, je l'avais lu donc à l'adolescence où les descriptions, c'était pas trop... mon credo, on va dire. Et pourtant, je suis restée... j'ai adoré ce texte, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est malheureux d'ailleurs, alors c'est justement, parce qu'il est décédé, il a écrit qu'un roman, hein, donc Alain Fournier, je disais souvent à des amis quand j'étais plus jeune, c'est la preuve que Dieu n'existait pas, parce qu'il n'aurait pas pris Alain Fournier, il aurait pris, je sais pas, Barbara Cartland. Mais c'est dommage, oui, parce que je pense qu'il aurait mérité d'écrire d'autres livres, ou on aurait peut-être été déçus, je sais pas. Mais cette description de la nature... Et magnifique chez Grac aussi, hein, on trouve des choses aussi sublimes. Mais chez Grac, des fois, c'est beaucoup, beaucoup. Hein. Je me rappelle le château d'Argol. J'ai un peu peiné quand même, moi. J'en sortais plus du château quand même. Ouais. Donc, alors que j'avais beaucoup aimé, je me rappelle plus cette histoire de... j'ai du mal, hein, je vieillis, donc je me rappelle plus des titres de livres, mais un autre Julien Grac que j'aime beaucoup, avec une histoire de soldat, mais... Ça va me revenir.
Mais Maulne, il y a un point commun avec vous. Maulne, c'est le nom d'un village. C'est le nom d'un village dans le Cher, le Grand Maulne.
Ah, d'accord.
Donc, le personnage d'Alain Fournier, il a pris le nom du territoire. Vous pouvez aller à Maulne ou vous pouvez visiter le musée Alain Fournier. Voilà. Okay. Et vous, Morvan, c'est le même principe. C'est je porte un peu le nom de ouais. de la terre d'où je viens, où je vais.
Où je vais, d'où je viens, et ça me pose à cet endroit-là, oui, effectivement.
C'est alors, et vous montrez aussi, ça c'est aussi fort, alors il y a cette auberge, il y a ce côté, voilà, la vie continue. Je remontais vers midi pour le service, à 7h, tout ce qui peignait, réparait, goudronnait, bâtissait dans la région, se donnait rendez-vous pour avaler rapidement le menu du jour. La place centrale du village se remplissait alors de camions, de fourgons, d'utilitaires, de voitures de fonction. Personne ne mangeait jamais seul. On s'installait par ordre d'arrivée sur les grandes tables. Et ça, c'est vrai, vous faites revivre la vie de ces lieux, et on voit bien ça dans certains villages, où il n'y a qu'un seul café, finalement, voilà. Et c'est là.
Et ça existe encore, hein, moi, dans ma région, c'est un peu comme ça. Quand j'étais sage-femme, je faisais des consultations à domicile et puis je m'arrêtais à un endroit où on arrivait, on se posait là où elle nous disait on s'assoit voilà. Là et puis je m'étais retrouvée avec des messieurs qui goudronnaient la route justement. J'avais appris beaucoup de choses sur le goudron et puis quand je disais je suis sage-femme, alors là ça, par contre ils me prenaient pour une déesse. Mais c'était très 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 sympathique. J'aimais bien. Puis alors voilà, il y avait un menu, point. Donc le jour de tête de veau, il y avait encore plus de monde parce que les gens aiment bien la tête de veau. Moi pas trop, mais il y avait des plats qu'on voit plus maintenant, la salade de museau et choses comme ça, je me souviens. Mais c'était vraiment j'aimais bien ces endroits parce que justement il y avait plus de barrières sociales en fait. C'était ça qui était bien. On pouvait discuter de tout. Il y avait des plâtriers peintres, des infirmières, voilà. Ça a disparu un peu maintenant, mais c'est dommage parce que c'était vraiment une bonne ambiance.
Ouais. Les infirmières libérales côtoyaient les électriciens, les aides à domicile, les commerciaux, et tout ce petit monde bavardait joyeusement en commentant l'actualité locale du jour. Où on se trouvait des souvenirs, des lieux, des amis communs. Il y a un côté, je ne sais pas si vous avez lu Simenon, mais si vous aimez Simenon.
Oui,
mais...
j'aime bien aussi. Alors, j'ai plus trop de souvenirs parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Mais c'est ça, en fait. Vous savez, quand on discute, quand vous êtes d'une région, vous finissez toujours par trouver un cousin, mais c'est le frère du machin, de Nénin, et voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Bonnevaux-le-Prieuré. Et dans ma région, il y a le Besançon qui est en bas. Bonnevaux-le-Prieuré, c'est le demi-plateau. Et puis après, au-dessus, il y a Bonnevaux, c'est le plateau, quoi. Donc, et mes grands-parents, ils étaient du demi-plateau. Et ils ne se mélangeaient pas avec les autres, en fait. Et quand on me demandait, quand j'ai travaillé à Pontarlier, on me demandait, vous êtes d'où ? Alors, je disais, je suis de Bonnevaux. Donc, comme il y a un Bonnevaux au-dessus, ils se disaient, mais alors vous connaissez un tel machin ? Je disais, non, mais c'est pas de ce Bonnevaux-là, c'est le Bonnevaux qui est plus bas. Tout de suite, on sentait qu'il y avait un petit quelque chose d'un peu moins sympathique. J'étais un peu une métèque, en fait. Et parce que pour être du coin, il faut avoir 10 générations cimetières, en fait. Et donc, on se sentait un léger mépris tout d'un coup. C'était assez amusant, j'aimais bien. J'aimais bien jouer sur les deux tableaux.
Mais vous aimez bien aussi reconstituer un peu cette vie de village, cette vie de peu, qui existe encore, et vous le faites très bien. Alors votre dernière phrase, d'ailleurs, Bénédicte Bellepoix, c'est « À bien y réfléchir, de toute façon, mon vrai prénom, personne ne le connaît ». Ah ça, j'adore.
Vous n'auriez pas dû le dire.
Mais si.
Ah non, vous n'auriez pas dû le dire. Parce que c'est là, c'est pas. Effectivement, on ne sait pas.
Non, mais c'est bien.
Ouais, parce que il est plus d'une région que d'autres choses. Il est pas. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais il a plusieurs facettes. Donc chaque facette a un prénom. Et chaque facette a un prénom ou un surnom. Donc, comme vous, sûrement, comme les gens dans la vie courante. Moi, pour certaines personnes, je suis Bénédicte Bellepoix. Pour d'autres, je suis Béné, la Béné en général, parce que chez nous, on met toujours un la devant.
Ah oui.
La Béné. Quand on va à deux quelque part, on dit les deux la Béné. Enfin, moi, si par exemple, je suis allée quelque part avec Marie-Claire, on est allé au marché les deux la Marie-Claire. Donc, c'est assez drôle. Et c'est ça aussi qui j'aime bien, c'est cette façon d'avoir un prénom pour chaque facette.
Oui, mais ça, je dis rien, en fait, de l'histoire. Parce qu'en fait, il crée son chemin. On sent que c'est un être qui est sur la route, un peu, pas comme un McCarthy, mais enfin, il se déleste au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie.
C'est la route du pauvre.
Ouais. Hein,
c'est la route du pauvre. Il fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, mais ça n'empêche pas d'être assez grand, je trouve, assez ouvert d'esprit. Et puis, mais pour moi, c'est un personnage fabuleux. Après, je suis mal placée pour en parler vraiment et lui trouver des défauts, parce que moi, j'aime écrire sur des personnages que j'aime.
Ouais.
J'aime mes personnages, je les aime tous. Je les trouve tous touchants. Je pourrais pas écrire sur un personnage que j'aimerais pas. J'ai écrit par le passé, mais je les ai fait mourir vite. Parce que j'ai besoin d'y croire, en fait. Et même les lieux, d'ailleurs, c'est des lieux que j'aime aussi. Parce que j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de les aimer, et je pense être meilleure quand j'aime les gens que quand je les aime pas, bien évidemment.
Et puis, il y a l'odeur de l'enfant. Je parlais du grand môle tout à l'heure. Je suis arrivée bien avant l'aube, mais je n'ai pas pu pénétrer dans le cimetière. Une haute grille fermée d'une grande chaîne épaisse, au verrou inviolable, en défendait l'entrée. J'ai cherché quelque chose d'ouvert pour boire un café et j'ai roulé jusqu'à la maison par distraction, guidée par un souvenir qui ne voulait pas mourir. Cette scène-là, elle est très émouvante parce que je pense que beaucoup de gens l'ont fait aussi.
Bien sûr, il y a des fois des endroits où vous y allez sans vraiment savoir que vous y allez, vous y retrouvez, puis vous dites « Ah mais oui, mais en fait, pourquoi je suis venue là ?» Parce que c'est une espèce de... j'allais dire de GPS interne, émotionnel, qui vous y emmène. Et, ou alors, par exemple, vous avez vécu dans un petit appartement quand vous étiez étudiant, vous passez dans la rue, vous dites, ah, tiens, je vais voir, des fois on voit rien, mais on va voir aussi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, Ah, puis alors, du coup, on se demande si on y a été heureux ou pas, ou malheureux, et pourquoi on est revenu là. Enfin, je crois qu'on, sincèrement, les lieux sont des espèces de marqueurs de vie. Sûrement. Et pour moi, ils sont très très importants.
Et puis on sent que pour vous, c'est cette histoire, votre roman, Morvan, Bénédicte Bellepoix, c'est aussi l'histoire d'un retour aux sources, finalement. Enfin, d'abord d'un retour... Enfin, il y a plusieurs retours aux sources, j'allais dire. Là, vous voyez, je vous dis une scène. Par exemple, ça arrivait, je pense, à plein de personnes d'aller dans un village où il y a eu sa famille et de se retrouver face au cimetière où il y a peut-être des restes de quelqu'un de sa famille. Enfin, vous voyez, c'est une sorte de pèlerinage intime.
C'est surtout la découverte du lieu ultime pour lui. Hein. C'est cette quête, c'est son Graal, c'est se poser quelque part, être de quelque part. Il a l'impression, comme moi, je pense, d'être de nulle part. Et tout d'un coup, lui, enfin, il trouve ce lieu où il va pouvoir faire souche, connaître, transmettre. Et ça, c'est super important, je pense.
Et puis, enfin, il vit son amour avec Monique.
Ah oui, avec ça...
Voilà, une vie. Hein. Ouais. Entre nous, nous parlions peu, mais toujours à bon escient pour des choses de la vie courante, des projets communs. Elle me donnait des miettes d'amour sans s'en rendre compte, en m'incluant dans son intimité. Elle disait notre chambre quand elle parlait de la sienne et notre jardin en parlant du mien. De fait, cette terre devenait un peu la sienne. Donc chacun va partager dans ce nouveau lieu, va se retrouver.
Oui, parce que c'est souvent, on a sa vie et on rencontre quelqu'un et il a sa vie. Et tout d'un coup, il y a des choses qui vont venir faire communauté. Et dans la bouche de l'autre, c'est toujours un peu perturbant parce qu'on se dit, ah, peut-être qu'on est passé à un stade un peu supérieur. Et moi, je trouve que l'amour, c'est quand même le sentiment le plus beau au monde. Et je dis souvent en rigolant, c'est, de toute façon, l'amour, c'est mathématique, en fait. Vous pouvez faire des choses magnifiques et merveilleuses tout seul. Vous pouvez gravir le Mont Blanc, par exemple, pour ne parler que de lui. Mais une fois que vous serez au-dessus, ok, mais si en plus vous êtes deux, vous êtes la personne que vous aimez, et que arrivez au-dessus, vous lui dites, c'est beau, hein. Et puis qu'elle vous répond, ou il vous répond, ben oui, c'est beau, ben c'est deux fois plus beau. C'est mathématique. Mmh. Ou si vous avez gravi tout seul, mais qu'il y a quelqu'un en bas qui vous attend, qui a eu peur pour vous, qui vous aime, qui dit « alors, ça s'est bien passé, etc. » Ben oui, c'est votre périple est deux fois plus beau, deux fois plus grand, deux fois plus intense. L'amour, c'est ça, c'est juste une multiplication.
Et oui, puis la rencontre, c'est important. Comment écrivez-vous, Bénédicte Bellepoix? Est-ce que vous êtes quelqu'un... Vous écrivez sur des carnets, directement sur l'ordinateur? Vous pensez longtemps à un sujet? Ou est-ce que vous avez besoin d'être dans le côté linéaire du récit?
Alors moi, j'écris très vite sur ordinateur. Je suis une fine institutrice et pourtant, je fais des fautes d'orthographe terribles. Donc l'ordinateur m'en corrige un paquet. J'écris très vite, j'écris le livre en 15 jours, je l'écris, mais vraiment, j'écris au maître, comme je dis. Par contre, après, je travaille 2 ans, parce que je relis, après, je suis un peu perfectionniste. Et j'estime que j'ai fini quand, rien que d'ouvrir le livre, j'ai envie de vomir. Je me dis, bon là, ça va, quoi. Hein, c'est bien, j'ai assez tourné autour. Mais j'écris vite parce que j'ai une idée très sûre de ce que je veux dire. C'est pas, alors c'est pas des grands messages métaphysiques, hein, c'est juste une petite idée de ce que je veux exactement dire. Donc ça vient très vite, mais c'est du premier jet. Hein, donc j'écris 100 pages, 150 pages très vite, et après ben je vais réécrire, remettre, enlever. J'avais entendu une fois quelqu'un dire j'ai pas l'angoisse de la page blanche, moi j'ai l'angoisse de la page vide, enfin de la page nulle. J'ai besoin de relire énormément, de retravailler. Je suis pas, alors sans fausse modestie, je suis pas très intelligente. J'ai une grosse puissance de travail. Donc je me compare par exemple avec des gens dans ma famille qui sans rien faire étaient très très doués. Moi il fallait que je rame quoi. Je suis un peu une staccanoviste de l'écriture.
Ouais. Et est-ce que le titre vient d'abord ou le titre vient après?
En général le titre vient d'abord. Mais ça m'arrive de changer en cours de route. Parce que souvent, c'est toujours mes quatre romans, c'est le surnom du personnage principal. Et qui n'est pas forcément celui qui écrit d'ailleurs. Par exemple, dans Suiza, c'est elle, le personnage principal, mais c'est lui qui écrit, Thomas. Dans Saint-Jacques, c'est elle qui écrit, mais c'est le personnage principal, c'est quand même Saint-Jacques. Enfin, Jacques, parce que c'est un jeu de mots. Dans Gonzalo, aussi, mais le problème, c'est que dans Gonzalo, il y a tellement de personnages accessoires que j'aurais perdu le lecteur. Donc j'ai quand même mis son vrai nom, mais en plus, je spoil rien, mais dans les premières pages, on apprend qu'il s'appelle Gonzalo, mais c'est un Espagnol, mais que quand il est arrivé en France, quand il a prononcé son nom, qui est très fortement, quand même très très fortement espagnol, moi je le prononce, c'est ignoble, j'ai un accent espagnol abominable, je m'en excuse auprès des Espagnols, mais lui, quand il le dit, c'est très chantant, c'est très beau. Mais quand il l'avait dit en France, on l'avait compris, les gens avaient compris gros salaud. Mais je pouvais pas écrire. J'avais posé la question à Gallimard de savoir si je pouvais appeler ce roman Gros Salaud. Mais c'est pas passé parce que, puis en plus, mon éditrice m'avait dit, et elle avait raison, tu vas induire vraiment le lecteur en erreur parce qu'on va penser que c'est un gros salaud. En fait, ce type, c'est tout sauf un gros salaud. Et elle avait raison.
Est-ce que la première phrase compte quand vous commencez à écrire un roman ou la dernière phrase, puisque j'ai dit la dernière phrase tout à l'heure, mais ouais. Est-ce que première, dernière phrase, c'est important pour vous?
Je pense que c'est plutôt la dernière. Mais la première, il n'y a pas trop de soucis, parce que vous savez que quand on écrit, souvent, on recommence toujours depuis le début, donc la première page, on la travaille quand même. Hein. Mais dans la dernière, moi j'ai un problème surtout avec les fins. J'ai souvent changé parce que je me suis aperçue que les fins étaient un peu trop, enfin, trop convenues, etc. Donc je pense que c'est la... Vous savez, quand vous lisez la dernière phrase et que vous fermez le bouquin, quoi. Je pense que c'est celle-là qui est la plus importante. Ouais, sûrement.
Vous vous souvenez de votre premier livre lu? Vos premières lectures d'un livre?
Oula, oui, La gomme magique. Hein? Oui, je crois que c'est ça.
Ouais. Intéressant.
Ouais. Et puis, il y avait aussi un album du Père Castor qui s'appelait La Panthère Noire.
Ah.
Ouais. Je me rappelle du dessin. Ouais.
À quoi ressemble votre univers d'écriture? Vous pouvez écrire n'importe où? Vous avez bureau d'écriture, vous aimez être entouré de vos livres, de livres, de votre bibliothèque?
Alors, n'importe où, mais il faut que je sois en disponibilité psychique. C'est-à-dire que je ne suis pas assailli par plein de choses de la vie quotidienne, n'importe où, mais tranquille, dans ma tête, surtout.
Donc vous avez été sage-femme, est-ce que vous considérez que l'écriture est thérapeutique? Est-ce qu'il y a une notion, non, ou pas du tout?
Ah bien sûr, c'est une thérapie, oui. Enfin, chez moi c'est une thérapie, hein. C'est sûr et certain. Mais oui, c'est écrire, c'est poser, parce que quand on parle comme ça, même ici à la radio, des fois, moi je crois pas avoir la science infuse, il peut m'arriver de dire des idioties terribles, mais quand vous écrivez, vous posez, bon, par exemple, je peux, des fois je me réécoute, je me dis, ah ouais, pourquoi j'ai dit ça, alors que mes livres, je renie pas un seul mot. Je les ai posés, je les ai travaillés, j'en suis fier, je les défendrai jusqu'au bout. Donc c'est pas la même chose du tout. Donc mes mots à moi, c'est mes romans sont. Quand on me dit souvent, c'est quoi votre genre? Je dis, ben lisez-moi, puis on en parle après.
Bah écoutez, merci beaucoup Bénédicte Belpois pour Morvan. C'est votre quatrième roman. Il y a un projet en cours là ou pas?
Oui, mais alors j'avais dit que j'arrêterais. Hein. Je suis comme les vieilles stars, vous savez. J'ai dit j'arrête, puis après je remonte sur la scène. Non, j'avais dit que j'arrêterais parce que j'avais quatre choses à dire sur l'amour, donc ça y est, c'est fait. Mais je me suis aperçue que c'était difficile de vivre sans écrire. Donc maintenant, c'est même quasiment impossible maintenant. Donc je pense quand même que je vais continuer un peu, mais je vais peut-être changer de registre. Ouais. J'ai une idée en tête.
L'écriture, ça vous a changé profondément? Parce que ça vous a modifié? Est-ce que vous sentez que votre être profond est modifié par l'écriture?
Non, je pense pas. Je pense que j'étais déjà comme ça, mais je l'avais pas perçu. Non, et puis je veux rester moi. Je veux rester une petite fille toute simple. Ouais, non, je voudrais pas choper le melon, comme on dit.
Merci à vous. Et puis voilà une phrase encore, je vous lis encore. Et puis les poètes savent trouver les mots qui aident à pleurer quand la peine boule dans la gorge et pique les yeux, les vers justes qui réparent les cœurs cassés et assèchent la vague du malheur sur le sable de l'oubli.
La mélancolie de Léo Ferré.
Voilà. Merci à vous, Bénédicte Bellepoix. Merci. C'était l'émission Bibliomanie et nous avons sur Radio Libertaire et nous avons discuté de Morvan, quatrième roman de Bénédicte Bellepoix qui vient de paraître aux éditions Gallimard.
That's not what I wanna hear, Joanna. Got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero had played his trump card. He doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile. But the good old days gone. The image and the info may be falling apart. The money has scarred and scares. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.
Il y en a qui font la mauvaise tête
au régiment.
Ils tirent au flanc, ils font la bête
inutilement. Quand ils veulent plus faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service à Biribi, à Biribi.
À Biribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chique et de faire le mort.
Ou que le plus malin désespère de faire chibi, car on peut jamais se faire la paire à Biribi, à Biribi.
À Biribi, c'est là qu'on marche,
faut pas flancher.
Quand le chaouche crie en avant-marche,
il faut marcher.
Et quand on veut faire des épates, c'est pour Zébi. On vous met les fers aux quatre pattes.